L'émission « Enjeux de société » est une production de la télé du Rocher-Percé.
Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage.
Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre.
Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications.
Ce recul d'il y a 20 ans, à peu près, c'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie.
On le sait, le Canada a pour objectif d'être carbone neutre à l'horizon 2050.
Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs.
De faire un compost maison de qualité, c'est très possible.
Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile.
Les 7 astuces du Mouvement Santé Mentale Québec sont des principes conçus pour aider à maintenir et améliorer la santé mentale individuelle et collective. Ces astuces sont issues d'une revue approfondie de la littérature sur les facteurs de protection en santé mentale et s'adressent à différents groupes tels que les adolescents, les adultes, les personnes âgées et les milieux de travail. Le Mouvement Santé Mentale Québec propose divers outils comme des fiches d'animation, des vidéos et des dépliants pour aider à comprendre et à mettre en pratique ces astuces. Ces ressources sont conçues pour être utilisées par différents groupes, y compris des enseignants, les travailleurs sociaux, les parents, les grands-parents, afin de favoriser une approche globale de la santé mentale tenant compte des aspects individuels, sociaux et structurels. Dans cette série, en 7 épisodes, nous allons éplucher avec Kylian Gay les 7 astuces. Cette semaine, l'astuce « Ressentir ». Cette astuce met l'accent sur l'importance d'être en contact avec nos émotions et de les comprendre. Alors moi, quand j'ai... Parce que j'ai quand même travaillé, j'ai essayé de bien travailler mon sujet avec tout ce que tu m'as envoyé. J'avais l'impression que l'astuce qui nous interpelle cette semaine, là, ce qui est ressentir, me semble être comme un peu... Je sais que tu nous as dit la dernière fois que c'était pas, il y avait pas forcément d'ordre, mais je le voyais comme une certaine base, on dirait, comme un appui... comme celui déjà de ressentir nos émotions. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu les étapes clés justement pour apprendre à mieux ressentir et comprendre nos émotions? Déjà, est-ce que ce que je disais juste avant, est-ce que tu le vois de la même façon, un peu comme quelque chose qui serait comme peut-être à acquérir, peut-être même avant d'aller vers les autres astuces?
Oui, c'est vrai que, tu sais, techniquement, on passe 90% de notre temps d'éveil à ressentir des émotions. Donc, c'est sûr qu'au quotidien, si on arrive à mieux vivre avec elles, à pouvoir apprivoiser aussi c'est quoi les différents signes que ça nous donne, oui, c'est certain que ça peut démêler certains nœuds dans notre tête, puis arriver après ça à accéder à d'autres astuces comme agir puis choisir, exemple. Mais tu sais, en gros, agir, ça peut avoir un lien aussi avec ressentir, parce que si on ne prend pas le temps de ressentir nos émotions dans le processus, ben peut-être qu'à ce moment-là, on n'arrivera pas à grand-chose. Donc, ressentir les étapes, la première de toutes, c'est toujours, on répète ça à chaque fois, là, c'est toujours d'écouter son corps, parce que les émotions viennent avec leur ami réaction dans le corps. Fait que c'est sûr que si j'ai une émotion, là, c'est impossible que j'aie aucune sensation dans mon corps. Sauf si vraiment j'étouffe cette émotion-là le plus possible puis que je fais comme si c'était pas là. Mais c'est sûr qu'il y a une réaction dans le corps. Là. Si j'ai de la colère en dedans de moi, ben même sans m'en rendre compte, des fois inconsciemment, ben je peux avoir plus de raideur dans le corps, je peux me sentir plus lourd, je peux avoir envie de me défouler parfois aussi. Donc la première chose, c'est de reconnaître nos signaux corporels par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Mon corps veut essayer de me donner un message et m'envoyer un signal. Ensuite de ça, ben, il y a un choix à faire, tu sais. Il y a un choix à faire entre est-ce que je lutte contre ce que je ressens? Donc, ça veut dire que je ne ressens pas l'inconfort, mais je n'ai pas réponse à mes besoins. Ou peut-être que je fais un choix différent, ou est-ce que je vais, oui, vivre avec l'inconfort, mais je vais ouvrir la porte aux solutions à ce moment-là, parce que j'accepte, j'accueille qu'est-ce qu'il y a dans mon corps. Et aussi, plus l'émotion est intense en dedans de moi, plus ça veut dire que l'événement ou la situation qui se passe est important aussi. Vient me chercher à quelque part. Il y a peut-être quelque chose au niveau de mes valeurs même qui a été touché. Donc, plus je vais réagir intensément, plus ça veut dire que je dois donner de l'attention à cette émotion-là parce qu'elle est grande puis elle essaie de m'envoyer un message de façon intense, justement. La troisième chose, c'est qu'on peut essayer d'identifier cette émotion-là. Puis souvent, c'est dur de mettre un mot sur ce qu'on ressent parce qu'on n'est peut-être pas habitué à ces sensations-là. On n'a peut-être pas encore fait le lien avec quel événement a causé cet état-là en dedans de moi. Fait qu'identifier l'émotion, c'est quoi selon moi? C'est-tu de la tristesse, de la honte, de la colère? Où je peux l'exprimer d'une autre façon? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens débordée? Je me sens mélangée? Ça peut être ça aussi. Puis à partir de tous ces indices-là, si je réussis à identifier cette émotion-là, ben c'est, je vais essayer de trouver qu'est-ce qui est caché derrière cette émotion-là. De quoi j'aurais besoin pour m'écouter, pour faire en sorte que l'émotion descende un peu dans son intensité. De quoi j'ai besoin en ce moment pour exprimer mon émotion. Mais là, je dis exprimer. Puis quand je dis exprimer, les gens pensent souvent que je veux dire par là qu'il faut absolument parler à quelqu'un. Oui, ça fait du bien de communiquer, évidemment. Je ne veux pas dire le contraire. Quand on parle de nos émotions à quelqu'un, on partage un peu comme le fardeau avec quelqu'un. On a l'impression que c'est moins lourd. On peut avoir aussi le point de vue de l'autre personne. Mais exprimer son émotion, ça peut se faire autrement aussi. Ça peut être par les arts, par exemple. Ça peut être par l'écriture. Exprimer son émotion, ça peut être d'aller faire du sport, justement, puis de se vider la tête. Donc, tout ça, c'est une façon aussi de les extérioriser. Donc, je pense qu'extérioriser, c'est même un meilleur mot qu'exprimer dans ce cas-là. Donc, ces étapes-là nous permettent, en fait, de prendre une pause, finalement, sur le quotidien, qui peut aller très vite parfois, puis de trouver qu'est-ce qui pourrait me faire du bien maintenant, là.
Puis tu parlais aussi d'étouffer. Est-ce que l'évitement sur le long terme, l'évitement des émotions, ça peut avoir un impact? Puis comment est-ce qu'on pourrait affronter ça si jamais on est des fois dans ce processus-là?
Ben, l'évitement, d'ailleurs, c'est un mécanisme de défense qui est naturel chez l'humain. Puis l'évitement va être utile à court terme si jamais j'ai besoin de faire une tâche, par exemple. Mettons, je suis au travail, ben ça se peut que ça soit pas le moment nécessairement de vivre mon émotion pleinement puis de la laisser sortir. Donc, ça se peut qu'à ce moment-là, je fasse de l'évitement, je continue ma journée comme si rien n'était, ou en ce moment, j'ai pas d'énergie pour donner de l'attention à cette émotion-là, exemple. Fait que pendant un court moment, je vais décider de la laisser passer puis d'y revenir plus tard. Mais justement, l'important, c'est qu'on lui donne de l'espace puis du temps pour la comprendre éventuellement. Parce que l'évitement, ça peut être une bonne façon d'apprivoiser nos émotions, mais ça a vraiment une date de péremption, si je peux dire, là. Il y a un moment donné où est-ce que notre émotion, elle va se rendre compte que, hey, elle m'a pas écouté l'autre fois quand j'ai voulu porter mon message. Je vais recommencer juste à temps qu'on puisse l'accueillir puis qu'on puisse lui ouvrir la porte finalement. Donc, quand on évite, qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? C'est comme si je vous disais en ce moment, « Hey, pense surtout pas à un citron jaune. Pense pas à un citron jaune, pense pas à un citron jaune. » Fait que ça fait exactement l'effet contraire sur notre cerveau. On y pense encore plus. Puis la deuxième chose aussi, quand on se dit de ne pas penser à quelque chose, là, c'est qu'on envoie comme message à notre cerveau qu'effectivement, il y a une menace ou un danger à ressentir ça. Et qu'on vient de confirmer à notre corps que, hey, mon Dieu, les émotions, c'est pas bon, puis il faut pas que je ressente, puis il faut absolument que j'évite ça. Donc, on vient renforcer cette croyance-là. Puis pour sortir justement de l'évitement, pourquoi est-ce qu'on évite l'émotion, en fait? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que toi, tu te permets pas de les vivre? C'est quoi le but dans l'évitement? Est-ce que c'est parce que les sensations...
J'imagine qu'on doit avoir peur... Enfin, j'essaie de répondre comme ça rapidement à cette question, mais j'imagine qu'on doit avoir peur... Tu parlais tout à l'heure de ça crée une sensation physique dans le corps. Des fois, c'est des sensations qui sont désagréables. Puis souvent, c'est ça qu'on essaye de fuir, j'imagine.
En effet. Donc ça peut être une des raisons. Je me sens tellement inconfortable. J'ai l'impression de perdre le contrôle. Je sais pas quoi faire pour me sentir mieux par la suite. Fait que j'aime mieux pas m'embarquer là-dedans. Il y a ça, il y a aussi le fait que peut-être que dans mon enfance, dans mon éducation, on m'a appris que les émotions, la vulnérabilité, c'est un signe de faiblesse. Si on vous a dit quand vous étiez jeune, un homme, ça pleure pas, ou pleure pas pour ça, franchement, puis qu'on a peut-être même ridiculisé vos émotions quand on vous a demandé de pas les montrer, de ne surtout pas être vulnérable, ben peut-être qu'aujourd'hui, vous avez encore ce réflexe-là. de vous dire comme ben j'ai honte de mes émotions, je devrais pas ressentir ça, je dois les cacher à tout prix, etc. Donc, c'est peut-être une raison aussi pourquoi qu'on fait de l'évitement pour éviter de ressentir.
Et j'avais, je sais pas si est-ce qu'il y a une différence entre ressentir une émotion et être submergé par elle. Genre, est-ce que des fois on est submergé par une émotion et peut-être que c'est là justement qu'on arrive peut-être moins à contrôler. Mais est-ce qu'on est quand même dans le ressenti? Est-ce que comment est-ce qu'on peut maintenir un équilibre justement? Est-ce qu'il faut, tu sais, je comprends l'idée qu'il ne faut pas éviter l'émotion, mais est-ce qu'il faut, est-ce qu'on est quand on est dans le mode ressenti, c'est parce qu'on est, on voudrait peut-être la contrôler? Est-ce que ou c'est peut-être ça qu'il faut éviter?
Ben en fait, dans l'intensité de l'émotion, ça va toujours dépendre de ça va être quoi mon comportement par la suite. Tu sais, une émotion qui est ressentie, peu importe l'intensité, elle est légitime. Puis parfois, ça c'est parce qu'on va nourrir le côté de l'émotion qui va nous amener à avoir des comportements un peu plus inadéquats. Tu sais, si moi, quand je suis en colère, ben je me laisse exploser, puis j'insulte les gens autour de moi, je vais bourrasser, je vais devenir plus agressive ou peu importe, là, ben c'est à ce moment-là qu'il faut se re-questionner que oui, j'ai droit d'être en colère à ce point-là, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Tu sais, c'est toujours du ressentir, mais c'est peut-être pas une bonne façon de l'extérioriser, c'est peut-être pas une bonne façon d'essayer de faire comprendre notre besoin finalement aux autres.
C'est en fait, j'imagine que c'est la connaissance de soi, j'imagine en fait, basée un peu sur l'auto-observation et des choses comme ça, qui nous permet peut-être d'avancer petit à petit. Parce que dans le fond, il faudrait avoir conscience des émotions. Pour en avoir conscience, il faut les connaître, peut-être même se renseigner sur c'est quoi telle émotion, quel impact. Est-ce que en faisant un peu de travail on va dire de s'instruire là-dedans peut nous aider justement en ayant plus de conscience des émotions en général d'aller vers une meilleure connaissance de soi.
Ben c'est sûr que mieux se connaître, ça va aider énormément à plus se comprendre parce que, exemple, nous, dans certains groupes, on propose des exercices du genre la lecture du vécu intérieur ou le journal des émotions. Fait exemple, moi, à chaque fois que je ressens quelque chose dans mon corps, ben là, j'écris. C'est quoi cette sensation dans mon corps? Qu'est-ce que ça me fait finalement? C'est quoi les pensées qui sont là aussi? Ensuite, ben, je vais essayer d'identifier cette émotion-là. Fait que là, peu à peu, ben, je peux faire des liens finalement entre, ben, quand que je ressens ça, souvent c'est parce que j'ai de la peine ou souvent c'est parce que quelque chose me fâchait ou peu importe. Puis après ça, à force d'avoir relié aussi cette émotion-là à certains événements. Exemple, moi, je réagis toujours plus fortement quand j'ai des conflits où ça a toujours rapport avec mes relations avec les autres. Ben là, je peux me connaître plus là-dedans puis me dire, hey, moi, il faut que je fasse attention parce que je sais que j'ai tendance à ressentir plus d'anxiété vis-à-vis mes relations. Je suis plus sensible aussi quand les autres me donnent des commentaires, etc. Donc oui, se connaître là-dedans, c'est important parce que chaque personne va réagir différemment aux émotions finalement.
D'accord. Donc en fait, j'imagine que la reconnaissance et l'expression, parce que quand j'imagine, ben, on le vit tous un peu sous différentes formes, comme tu dis, différents niveaux, mais laisser l'expression des émotions, ce que je comprends, c'est que ça devient crucial pour les relations interpersonnelles, la communication, tout ça. Mais est-ce que, pour moi, l'idée de laisser s'exprimer une émotion, est-ce que c'est quelque chose qu'on dit, tiens, je ressens quelque chose, je vais aller m'isoler parce que je vais essayer d'être dans ma bulle pour le faire, ou est-ce que on lâche ça comme là on est au travail, on fait ci, on le fait de cette façon-là. Est-ce que c'est mieux de l'exprimer sur le moment? Tu sais, j'essaie de voir un peu les chemins qu'on peut prendre justement pour être dans cette expression-là de l'émotion, puis après ça être aussi dans le ressenti de ça.
Ben si ça, le contexte nous le permet de l'exprimer sur le moment, ou si le moyen qu'on a choisi pour l'exprimer se concorde bien aussi avec le contexte, comme par exemple, je suis au travail, puis j'ai décidé de faire descendre mon émotion de colère en ayant validé avec un collègue quelque chose qui me dit ou qui s'est passé, ben là, peut-être que je suis mieux justement de le faire le plus vite possible pour éviter de m'emballer dans mes interprétations. Fait que si ma colère monte parce que je la nourris par des pensées qui finalement ça n'a aucun rapport parce que mon collègue a juste été maladroit ou que j'ai mal interprété sa parole, mais là oui, ça va être pertinent de le faire sur le moment. Mais parfois, quand il y a quelque chose qui bouille en dedans, puis que c'est plus personnel, qu'on n'a pas nécessairement envie d'en parler, par exemple, au travail, ben ça va être d'attendre en fin de journée, finalement, peut-être pour aller prendre une marche pour réfléchir, peut-être pour aller parler à quelqu'un en qui on a confiance, puis qu'on sait que ça nous fait du bien quand on lui parle. Donc, c'est pas nécessairement crucial de le faire dans le moment présent, mais de s'assurer de garder un moment pour écouter cette émotion-là. Là.
Je vois ça un peu comme c'est une gestion émotionnelle, un peu comme on gère peut-être des aspects dans notre travail ou dans notre vie quotidienne, bien gérer les choses pour essayer d'être dans un certain équilibre. Est-ce que cette gestion, est-ce que ça peut être déjà vu comme une gestion émotionnelle? Est-ce que il y a un lien entre une bonne santé mentale, la santé mentale positive et puis bien gérer ses émotions?
Oui, puis faut faire attention aussi avec le terme gérer pour ne pas penser qu'il s'agit de maîtriser à tout prix tout ce qu'on ressent, parce que dans la réalité, c'est pas nécessairement possible. T'sais, on va gérer un budget, on va gérer des affaires, mais gérer des émotions. Parfois, je préfère justement dire les apprivoiser, essayer de les comprendre un peu plus, parce que on peut pas demander justement à un être humain de se maîtriser complètement, puis de toujours gérer ses états d'âme. Tu sais, il y a toujours un moment où est-ce que quelqu'un va avoir un trou plein peut-être, puis il va exploser une fois. Tu sais, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui quand même font pas de nous une mauvaise personne ou quelqu'un qui a aucune maîtrise de soi justement. Donc la vraie maîtrise de soi, en fait, c'est plutôt d'attendre que la poussière retombe, puis de ne pas laisser nos comportements, nos gestes, nos décisions être trop influencés par l'intensité de notre émotion, finalement. Parce qu'une émotion, ça dure, dans son pic d'intensité, là, ça dure entre 30 et 60 secondes. Donc, c'est sûr que si on agit dans ce 30 à 60 secondes-là, oui, ça se peut que là, on a un comportement qui dépasse un petit peu ce qu'on avait prévu, ou qui peuvent paraître exagérés aux yeux des autres. Alors, c'est plutôt de prendre le temps de comprendre, puis de prendre le temps aussi de laisser cette émotion-là prendre de la place. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais pour l'exprimer d'une bonne façon?
Mais peut-être pour terminer, puis vous faire le pont avec ce qu'on a vu dans le premier épisode avec l'action, agir. Ce que je comprends, en fait, c'est que qu'on accueille une émotion, qu'on l'observe, qu'on est dans l'action, en fait, déjà. On est déjà en train d'agir petit pas à pas, on est en train de faire les petits pas, comme tu disais, de géant tout à l'heure, pour toujours être dans la santé mentale positive.
Absolument. Ça, c'est certain, là. Si on fait juste ça au quotidien, de s'écouter un peu plus, puis d'accepter la place que prennent les émotions dans ma vie, là, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un grand pas vers l'équilibre pour arriver à, dans les différentes sphères de ma vie, à me sentir mieux, à sentir que j'ai le droit aussi d'exister carrément. Puis dans les petits pas que je vais faire aujourd'hui, peut-être que ça sera lié à mes émotions, en effet.